Les grandes voies de l'UNESCO. Épisode 4. Chikaya ou Tamsi.
Bonjour Jean-Mike.
Bonjour Gabriela.
Alors, celui que le grand public appelait le commandant Cousteau était un homme de marine, un scientifique, un grand défenseur de l'environnement, et en 1900...
Non, on ne parle pas d'écologie.
Bon, ok.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un art qui permet de soigner les âmes et de les élever. La poésie. Entre le 1er et le 24 avril 1964, se déroula à Dakar, au Sénégal, le premier festival mondial des arts nègres.
Les arts nègres, c'est-à-dire ?
C'est la première exposition d'art africain d'envergure internationale, organisée à l'initiative de la revue Présence africaine et de la Société africaine de culture par le poète et président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Ce fut un événement sans précédent dans l'histoire culturelle du continent africain. Tous les arts étaient représentés. Arts plastiques, littérature, danse, cinéma, etc. Et on y croise aussi des personnalités venues du monde entier. L'écrivain et homme politique martiniquais Aimé Césaire. André Malraux, à l'époque, ministre d'État chargé des affaires culturelles en France. Il y a également l'intellectuel haïtien Jean Price Mars. Le jazzman américain Duke Ellington. L'icône des années folles Josephine Baker. L'écrivain et militant des droits civiques aux États-Unis, Langston Hughes. La chanteuse et comédienne sénégalaise, Aminata Fall. Tous sont là, et bien d'autres.
Quel était le but d'un tel événement, Jean-Mike ?
Selon Léopold Sédar Senghor, il s'agissait de parvenir à une meilleure compréhension internationale et interraciale, d'affirmer la contribution des artistes et écrivains noirs au grand courant universel de pensée et de permettre aux artistes noirs de tous les horizons de confronter les résultats de leurs recherches.
Vous y étiez, vous, à Dakar en 1966 ?
Alors, vous savez, en tant que micro de l'UNESCO, j'ai en effet beaucoup voyagé à travers le monde. Mais cette fois-ci, non, j'étais resté à Paris. Mais cela m'a permis de rencontrer Chikaya Outamfi. Alors, tout juste de retour du festival des arts nègres.
Mais qu'est-ce qu'on entend par art nègre ? Ça sonne tout de même un peu bizarrement, non ?
Je vous comprends. Il faut bien entendu contextualiser cette expression. Et notamment celle de la négritude. C'est un courant politique et culturel qui naît et se développe dans les années 1930 et 40. Et qui découle de la colonisation et de son racisme. Le concept de négritude a été créé pour lutter contre le dénigrement de la culture africaine par l'Europe. Ce terme a été forgé par Aimé Césaire et avec Léopold Sédar Senghor, entre autres. Ils en étaient les grands défenseurs. Mais pour le poète congolais Chikaya Outamfi, lui, d'une autre génération, même s'il ne dénigre pas la négritude, il ne se réclame pas de ce courant défendu par ses aînés.
Chikaya Outamfi n'était-il pas aussi collaborateur de l'UNESCO au département de l'éducation à la division Afrique ?
Oui, en tant que représentant du Congo-Brazzaville. Le 8 avril 1964, il vient de rentrer de Dakar, où il a remporté le Grand Prix de la poésie négro-africaine pour épitomer son 4e recueil de poésie. Un recueil qui a un écho direct au leader politique congolais assassiné en 1961, Patrice Lumumba, dont il était proche. Chikaya Outamfi, âgé de 35 ans, répond aux questions d'un journaliste depuis le studio de l'UNESCO. Vous vous doutez bien que je suis là pour recueillir sa parole.
Est-ce qu'il y a une résurgence, un renouveau de la poésie africaine en ce moment ?
Vous savez, il faut remonter aux sources de la nouvelle poésie africaine et malgache. Cette nouvelle poésie, elle n'a pas 30 ans. Elle n'a pas 30 ans, et c'est un fait historique. Elle s'est élaborée pendant la période dite coloniale. C'était une poésie de protestation, essentiellement, et aussi une poésie de défense et d'illustration. Après la période post-coloniale, on assiste maintenant à l'éclosion d'une littérature qui n'est plus de défense et d'illustration d'un groupe ethnique donné, mais simplement la défense et l'illustration d'individualité ou, disons, de cette culture donnée.
Mais est-ce que ce renouveau de la poésie n'est pas une manière d'affirmer la conscience nationale des jeunes États ?
Cela est possible, mais c'est-à-dire que la poésie n'est plus ne retient plus que le combat politique. Elle va vers le combat de l'homme pour l'homme. Donc, elle s'humanise davantage qu'à prime abord pouvaient apparaître les poètes qui se rangeaient sous la bannière de la
négritude. Oui, mais ce qui est de toute manière une façon pour l'Africain de revendiquer une responsabilité en tant qu'Africain face au monde.
Oui, vous savez, dans la mesure où quelqu'un s'affirme, qu'un Africain s'affirme africain, et il n'est pas contre le monde, mais il est certainement pour le monde.
Il prend une part du monde
pour
lui.
Une part du monde, bien sûr. Il annexe le monde. Et personnellement, je crois que c'est l'attitude que j'adopte, mais qui est la mienne par rapport à la création littéraire dans son ensemble.
Tchegaïa, vous n'êtes pas un poète enfermé dans votre tour d'ivoire, et la preuve c'est que vous vous intéressez aux grands problèmes de ce monde en travaillant à l'UNESCO, mais une autre preuve en est dans la préparation que vous faites d'une anthologie de légendes africaines.
L'anthologie que je prépare, moi qui est maintenant presque sous presse, m'a été commandée. On m'a demandé de faire une anthologie, et en fin de compte je n'ai pas fait une anthologie. Le terme le plus pratique pour appeler cela, c'est anthologie. J'ai fait une légende avec d'autres légendes. J'ai mis des légendes bout à bout, soit, mais ces légendes, les unes après les autres, racontent une légende. C'est en quelque sorte la légende des siècles. Mais là, je ne l'ai pas rédigée, j'ai pris des légendes à droite et à gauche, des légendes africaines. Je vais de la création à la mort, soit en passant par toutes les étapes des activités humaines, l'humanité conquérant, la marche de l'humanité en Afrique, toutes les légendes de migration, d'initiation, de grands conquérants, de grandes dames africaines, choses qui sont restées souvent dans des livres inaccessibles. J'ai essayé de les sortir, malheureusement, dans une proportion trop étroite.
Et j'ai l'impression que cette œuvre de synthèse est une manière de préserver les traditions africaines.
Oui, préserver les traditions africaines, d'une part. Et depuis le temps que je m'occupe de questions culturelles, j'ai été frappé par une chose. C'est qu'ayant, par exemple, manipulé pour la radio près de 100 et 150 contes africains, je leur ai trouvé une telle similitude avec les contes chinois, les contes de Grimm et puis les contes de France et d'ailleurs. J'en reviens à ce que disait Montaigne, chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Je crois que la tour de Babel, il faut la reconstruire avec la première volonté et essayer en sorte qu'il n'y ait pas un dieu jaloux qui vienne la détruire. Je voudrais construire la tour de Babel humaine, c'est-à-dire une unité humaine. Il n'y a pas de divergence entre les hommes, entre leur foi, entre leur croyance et leur intérieur. Il y a l'extérieur simplement, ou du moins l'expression, une coloration de l'expression qui les diversifie, mais jamais le fond.
Eh bien, je vous remercie, Félix Tchegaïa, Tchegaïa Outamsi, qui est votre nom de poète. Je vous remercie et je vous félicite pour le prix que vous venez de recevoir. Ici Paris, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Nous sommes en 1977. Tchegaïa Outamsi lit son poème « Nat a tissé », extrait de Feu de brousse, son second recueil de poésie paru 20 ans plus tôt.
Il venait de livrer le secret du soleil et voulut écrire le poème de sa vie. Pourquoi des cristaux dans son sang? Pourquoi des globules dans son rire? Il avait l'âme mûre quand quelqu'un lui cria « Sale tête de nègre !» Depuis, il lui reste l'acte suave de son rire et l'arbre géant d'une déchirure vive. Qu'était ce pays qu'il habite en fauve, derrière des fauves, devant, derrière des fauves? Son fleuve était l'écuelle la plus sûre, parce qu'elle était de bronze, parce qu'elle était sa chair vivante. C'est alors qu'il se dit « Non, ma vie n'est pas un poème. » Voici l'arbre, voici l'eau, voici les pierres, et puis ce sacerdoce du devenir. Il vaut mieux aimer le vin et se lever matin, on le lui conseilla. Mais plus d'oiseaux dans la tendresse des mers. Sale tête de nègre. Il est le frère cadet du feu. Ici commence la brousse.
et la mer n'est plus que le souvenir des mouettes, toutes dressées, dent à dent, debout, contre l'écume d'une danse capitale. L'arbre était le plus feuillu, l'écorce de l'arbre était la plus tendre. Après la brousse brûlée, que dire de plus? Pourquoi dans le vin y avait-il de l'absinthe? Pourquoi remettre dans les cœurs et les caïmans et les piroguiers le flot du fleuve? Le grain de sable entre dedans, est-ce ainsi qu'on broie le monde? Non. Non, son fleuve était l'écuelle la plus suave, la plus sûre, c'était sa chair la plus vive. Ici commence son poème de vie. Il fut traîné dans une école, il fut traîné dans un atelier, et il vit des chemins plantés de sphinx.
Il lui reste l'arc suave de son rire, puis l'arbre, puis l'eau, puis les feuilles. C'est pourquoi, vous le verrez, les piroguiers de pied ont repris, au remorqueur du coton français, leur clameur. Et ce vol est un vol de colombe. Les sangsues ignorent l'aigreur de ce sang-là dans l'écuelle la plus saine, sale tête de nègre. Voici ma tête congolaise, c'est l'écuelle la plus saine.
Merci beaucoup, Nimrod.
Merci. Je m'appelle Nimrod, je viens du Tchad, je vais avoir là au mois de décembre 63 ans.
Vous êtes né en 1959, donc oui. Un an avant l'indépendance pays.
À peine quand on est en décembre, en fait quelques mois quoi, parce que l'indépendance du Tchad, la proclamation de l'indépendance c'est août 1960, donc voilà.
Vous êtes romancier,
oui, romancier,
essayiste,
poète,
docteur en philosophie.
Oui, ça importe bien peu.
Vous avez reçu de nombreux prix, Nimrod, pour votre œuvre, et notamment le prix Édouard Glissant en 2008, et le prestigieux prix Apollinaire, ça c'était en 2020, pour votre recueil Petit éloge de la lumière nature.
Oui, c'est bien ça.
Nimrod, qu'est-ce qui vous frappe à l'écoute de cette archive de Chikaya Umtansi?
C'est cette forme de douceur qu'il y a dans sa voix, avec des hésitations comme cela, et dans ces hésitations, ce sont des fragments de silence comme ça, qui donnent de la profondeur encore à ce qu'il dit. Et c'est vraiment, vraiment touchant. Et quant à la pertinence de ce qu'il dit, alors il n'y a absolument pas une virgule qu'on pourrait ajouter.
L'écrivain et critique littéraire congolais Boniface Mongombusa, qui est l'auteur d'une biographie de Chikaya Utomsi, a dit « Chikaya Utomsi est à la littérature congolaise ce que Kateb Yassine est à la littérature algérienne et maghrébine. C'est un poète totem. » Et pour vous, Nimrod, vous qui aviez à peine 30 ans quand Chikaya Utomsi est décédé en 1988 et qui vous apprêtiez à publier votre premier recueil de poésie, Pierre Poussière, aux éditions Obsidian, qui a d'ailleurs reçu le prix de la vocation en poésie en 1989, qu'est-ce que Chikaya Utomsi a représenté et continue de représenter pour vous?
Justement, si Mongombusa en fait un totem, j'ai l'impression que ce mot, on peut le généraliser partout en Afrique. Les Africains sont tellement épris d'honneur, de totem. Ton nom même disparaît. C'est une manière de ne pas vraiment tenir compte de ce que vous êtes, sauf votre référence sociale, en fait votre notabilité. Et je crois que c'est tout ce qu'il ne fallait pas écrire, de dire totem, parce qu'il est totem, parce que personne ne le lit. Personne ne le lit. Ou bien, quand on le lit, quand on veut encore, si ce n'est pas totem, d'ailleurs il le dit dans cette biographie, il nous en fait notre Rimbaud africain. C'est qu'il est. Dès son premier livre, les titres sont pris à des fragments de Rimbaud. Mais ce n'est pas ça, cet homme. Cet homme, c'est justement comme il le dit si bien, je suis africain, je vous emmerde, je suis congolais, mais je suis d'abord moi. Et c'est ça tout le temps, et personne ne fait cette lecture. C'est d'ailleurs toutes ces lectures d'époque, je crois qu'il nous faudra 200 ans pour tout déconstruire, parce que c'est l'époque qui l'emporte davantage, quoi. Prisme de la Révolution, prisme des États, prisme... Et là, ce que j'ai adoré, c'est justement qu'ils disent, mais non, la nouvelle poésie africaine... Et là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il cite Senghor sans le citer. Et il dit à partir de là, non, nous ne travaillerons pas tout à fait pour nos États, pour autre chose, puisqu'on a fait la défense et l'illustration. Il n'emploie pas le mot de négritude, mais c'est de ça dont il parle. Nous parlerons de nous-mêmes. Ou quand il répond aux journalistes, mais... Les poètes africains doivent aussi avoir apporté leur part d'humanité au monde. Et ça, Chikaya Utamsi peut, dans le même vers, parler du dictateur, parler de son amour et parler du Congo. Voilà.
Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org. Les grandes voix de l'UNESCO. Un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO. Avec la participation de Nimrod.